franceinter.fr.
Près de 10 millions de personnes ont regardé le débat télévisé entre les favoris à la présidentielle hier soir, un moment crucial pour les candidats, forcément facteur de stress. Comment justement gère-t-il de tels enjeux, mais aussi la pression, la fatigue ou les attaques en période préélectorale? Patrick Légeron, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes avec nous au téléphone, vous êtes fondateur du cabinet Stimulus, vous exercez également à l'hôpital Sainte-Anne et vous expliquez dans une interview au magazine Science et Avenir comment les politiques se préparent justement à ce type d'épreuve lors de campagnes présidentielle par exemple. Alors le débat télévisé d'hier soir, c'est un niveau de stress très élevé pour les favoris a priori.
Oui, bien sûr, tout à fait, mais ce débat intervient dans un contexte de stress permanent depuis de longs jours, voire de longues semaines. Et ce qu'il faut noter, c'est que le stress des politiques, comme d'ailleurs le stress des grands dirigeants, c'est un sujet relativement tabou, parce que avouer et connaître le stress, pour certains, est synonyme, j'allais dire, de faiblesse ou même de manque de légitimité au poste de candidat.
Quel type de stress, à quel type de stress sont confrontés les hommes politiques ?
Il y a deux types de stress, comme c'est toujours le cas. D'abord, un stress extrêmement physique, puisque évidemment, les journées sont très longues. Ils commencent souvent très tôt sur les plateaux de radio, de télévision. Ils enchaînent les réunions. Ils terminent par des meetings fort tardifs et ils se déplacent. Donc, on imagine que la fatigue physique est importante, mais c'est aussi la fatigue psychologique, c'est-à-dire... Par exemple, un événement comme celui d'hier soir, c'est être confronté à une situation où il faut performer. Et les chercheurs et les scientifiques connaissent bien ce qu'on appelle le stress de la performance, que quand on est un sportif de haut niveau ou même quand on est un étudiant qui passe un examen oral, eh bien l'enjeu de réussir est fondamental. Et donc là, évidemment, c'est important. En plus, la gravité d'une erreur, un petit mot qui est lâché, qu'il ne fallait pas, peut être catastrophique. Il y a 100 000 exemples d'événements politiques où justement une petite erreur a eu des conséquences dramatiques. Et puis aussi la confrontation à plein de situations émotionnellement extrêmement chargées, la violence des attaques, le sentiment aussi d'être dénigré, d'être exposé devant tout le monde. Et pendant en effet la grande tribune d'hier, ce grand débat présidentiel, on peut observer des comportements aussi bien au niveau des attitudes qu'au niveau des visages qui témoignent d'un certain niveau de stress, qui d'ailleurs n'est pas forcément inutile, ça peut aider les candidats à donner le meilleur d'eux-mêmes.
Alors quel regard justement le psychiatre que vous êtes a-t-il porté sur les candidats hier soir? On sentait une tension chez tous d'ailleurs.
Ce qui est normal. Vous savez, le stress n'est pas une pathologie, le stress n'est pas négatif, et au contraire, un peu de stress vous dynamise, donc il faut souhaiter qu'ils connaissent tous le stress à ces moments-là. Le problème, c'est la dose. Et donc, on a observé en effet des moments où les candidats étaient stressés. Alors, c'est très intéressant parce que le stress peut nous conduire à adopter diverses attitudes. Il y a d'abord l'attitude d'être figé, de ne rien dire, un peu comme un animal pris dans les lumières de votre voiture sur une route la nuit. Et donc, cette espèce de d'immobilisme complet, on l'observait évidemment chez François Fillon au tout début, mais on voit aussi
une
que
forme d'appréhension.
Pardon ?
Une forme d'appréhension.
Oui, d'appréhension, et le stress qui paralyse un petit peu, on reste un petit peu à ne rien dire, et au contraire, on voit l'autre aspect du stress, qui n'est pas simplement l'inhibition, mais plutôt l'attaque, et on a bien vu certains candidats réagir de manière assez forte, d'ailleurs assez intelligemment parfois, mais de manière assez forte à une pique qu'ils peuvent recevoir. Donc on voit un petit peu tous ces aspects du stress qui opèrent pendant cette confrontation, mais comme je le disais tout à l'heure, un certain niveau de stress les dynamise extraordinairement. Le problème, c'est qu'il faut qu'ils sachent, il faut savoir gérer le stress. Et c'est pas uniquement pendant cette intervention que le stress doit être préparé. Je crois que les hommes politiques, en tout cas, qui veulent gérer leur stress et ils en ont besoin, font extrêmement attention d'abord à leur hygiène de vie. Souvent, ils ne consomment pas d'alcool, ils préservent leur sommeil, ils utilisent des techniques de relaxation tout au long des jours qui passent. Mais également, je crois que c'est l'aspect psychologique qui est le plus important. Et cet aspect psychologique, certains sont coachés, certains font appel discrètement parce qu'ils ne veulent pas toujours avouer qu'ils ont besoin un petit peu de cette aide psychologique à affronter quand même un environnement extrêmement stressant au quotidien, et en particulier lors de confrontations comme ce débat présidentiel.
Patrick Légeron, on va écouter Jean-Luc Mélenchon, qui est un des rares d'ailleurs à s'exprimer vraiment sur son hygiène de vie. C'était le cas en septembre 2016, et il avouait même consommer du quinoa pour prendre un peu soin de son corps.
Parce que je ne peux pas commencer une campagne électorale en étant au maximum de mon poids. Il y a un rapport entre le poids que l'on pèse et le nombre d'heures de sommeil dont on a besoin. Et le sommeil, il y a un rapport avec la mémoire. Ça peut vous paraître un peu compliqué, mais maintenant que les gens étaient dans les Jeux Olympiques, ils vont comprendre ces trucs-là. C'est un sport de haut niveau.
Voilà, Jean-Luc Mélenchon. Agnès.
Oui, même s'ils sont préparés et accompagnés, s'ils prennent soin de leur corps, les candidats qui arrivent à ce stade de la compétition politique ont-ils aussi de meilleures dispositions au départ pour gérer le stress, Patrick Légeron ?
Oui, tout à fait. Il y a une sélection naturelle qui s'opère au fil des années. Alors la sélection naturelle de politiciens, c'est évidemment leur capacité intellectuelle, leur programme, leur soutien dans des partis politiques, etc. Mais on oublie que la résistance physique et la résistance au stress en élimine un certain nombre. Et ça, c'est important. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que s'il y a beaucoup de facteurs de stress, il y a beaucoup de facteurs de protection. Le principal facteur de protection, c'est d'abord le sens qu'ils donnent à ce qu'ils font. Parce que vous savez, on voit ça également dans toutes les activités professionnelles. Moi, je considère qu'être politique, c'est aussi un métier. Dans toutes les activités professionnelles, les gens qui ont un sens très fort de leur activité parce qu'ils trouvent ça passionnant, intéressant, ils ont l'impression d'avoir une mission, eh bien, résistent beaucoup plus au stress que les gens qui font des tâches inutiles, sans intérêt. Donc, le sens est très fort. Ils ont également énormément de soutien. La ferveur des candidats, de leurs supporters, l'ambiance qu'ils reçoivent un petit peu de leur entourage les soutiennent considérablement, mais ils doivent aussi extrêmement développer des propres capacités psychologiques eux-mêmes. Et parmi toutes ces capacités, c'est de raisonner positivement. Au lieu de se focaliser un peu comme un sportif de haut niveau, vous savez, l'entraînement psychologique des hommes politiques ressemble étonnamment à celui qui est donné à des sportifs de haut niveau, c'est-à-dire être capable d'aborder une compétition sans surinvestir, c'est-à-dire évidemment attacher beaucoup d'importance, mais pas avoir dans sa tête cette espèce de petite phrase, cette petite voix qui vous dirait « si tu loupes, c'est catastrophique », parce que là, ça vous met un niveau de stress extrême. Il faut aussi qu'il soit capable de repérer sans cesse ce qui est positif, se souvenir d'une dame qui lui a dit que c'était formidable ce qu'il faisait, plutôt que de cette personne qu'il a huée, etc. Donc il y a beaucoup de choses. Et puis, dernière chose, ce sont toutes les émotions. Un homme politique est traversé par des émotions permanentes, comme tout être humain, mais peut-être exacerbées. Évidemment, des émotions de plaisir, des émotions de fierté, des émotions d'attente de résultats favorables, mais aussi des émotions négatives, comme la peur de perdre, la colère, la révolte, le découragement. Et là, on est dans un registre que les psychologues connaissent bien, celui de l'intelligence émotionnelle. Gérer toutes ces émotions, être capable de fonctionner positivement. Et on voit certains candidats qui sont davantage sur le registre positif que le registre négatif, et on sait bien qu'un fonctionnement positif est quelque chose qui vous maintient dans un bien-être et aussi qui vous protège au niveau de votre santé.
Oui, Patrick Légeron, très vite pour terminer, là, les tout derniers, justement, ces monstres politiques qui sont capables justement de mener des campagnes présidentielles et qui ont franchi toutes les étapes de la sélection naturelle, on pourrait dire les choses comme ça, sont un peu des surhommes quand même ou pas ?
Oui, d'une certaine façon, ce sont des sud-hommes, mais je veux dire, il faudrait pas croire que ce qu'ils pratiquent pour eux-mêmes n'est pas accessible à tout le monde, c'est-à-dire comme vous le citiez avec un candidat, M. Mélenchon, l'hygiène de vie, le développement de fonctionnement psychologique plus efficace, et vous savez, au-delà des politiques, dans les milieux du travail, auprès de cadres dirigeants, de responsables, on voit bien que ce sont les mêmes approches d'augmentation de sa résistance au stress. Dans nos environnements aujourd'hui, et c'est encore plus vrai pour les politiques peut-être en période électorale, on sait bien que le stress est omniprésent et que finalement, une des choses qu'il importe pour chacun de nous de bien faire, c'est de développer ce qu'on peut appeler des compétences, au sens le plus technique du terme, des compétences à gérer le stress, parce que non seulement ça vous maintient dans un bien-être, ça vous évite aussi des décompensations pathologiques, mais également ça vous permet d'atteindre la performance. Il n'y a pas de performance sans une bonne gestion du stress.
Merci Patrick Légeron. Vous êtes également l'auteur d'un livre, Le stress au travail, publié chez Odile Jacob. Et puis on peut retrouver également votre interview sur le site de Science et Avenir. Merci à vous. et Agnès, à bientôt.
À bientôt.
Merci. En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, il se dit un peu choqué par la nouvelle. Le français Yves Meyer, 77 ans, vient de remporter le prix Abel. C'est l'équivalent du Nobel de mathématiques. L'Académie norvégienne des sciences et des lettres récompense ce retraité de l'École normale supérieure de Paris-Saclay pour son rôle central dans le développement de la théorie mathématique des ondelettes. Nous en reparlerons demain dans l'émission. Le venin d'araignée permet de mieux traiter les dommages liés à un accident vasculaire cérébral. C'est ce qu'avancent des chercheurs australiens. Dans ce venin, c'est une protéine qui serait particulièrement bénéfique pour notre cerveau. Elle permet de stopper les mécanismes de détérioration du système cérébral et de booster les performances neurologiques. Les dégâts causés au cerveau pourraient être diminués de 80% en recourant à cette protéine moins de 2 heures après une attaque. Les AVC qui tuent 6 millions de personnes chaque année et en laissent presque autant avec des séquelles neurologiques irréversibles. Et puis le train pour le climat est entré aujourd'hui en gare d'Austerlitz, voie 21. Il s'agit d'une initiative qui vise à sensibiliser aux enjeux climatiques. C'est toute une rame de train qui a été rhabillée et réaménagée pour l'occasion. À l'intérieur, une exposition justement présente les solutions possibles au changement climatique en cours. Le train devrait sillonner le territoire français dès l'année prochaine.